Bonjour et bienvenue sur Les Ondes d'être flic, le podcast d'un policier à la rencontre d'autres policiers. Dans cette série, je vous amène découvrir l'histoire intime de ces flics que vous croisez en bas de chez vous à toute heure. Au micro d'Emmanuel, avec le soutien de la MGP, la Mutuelle des Forces de Sécurité, vous allez entendre ces policières et policiers, de tous grades, de tous horizons, celles et ceux que vous appelez au 17, celles et ceux dont la vocation est de vous protéger. Bonne écoute. C'est à Paris-Centre que je retrouve notre invitée du jour. La matière qu'elle traite depuis plusieurs années comme officier de police à l'OFMIN n'est pas des moindres. C'est un travail d'enquête, de sang-froid et de rigueur que va nous raconter Véronique Béchu, commandant de police. Bonjour Véronique.
Bonjour Guillaume.
Je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites.
Je suis donc Véronique Béchu, je suis commandant de police. J'ai intégré le corps des officiers de police en 2003, directement affecté à la brigade de protection des mineurs de Paris. Et je suis restée au sein de cette unité spécialisée dans la lutte faite aux violences graves aux mineurs, qu'elle soit sexuelle, physique ou psychologique, pendant 13 ans, presque 13 ans. Et puis en 2015, j'ai intégré comme adjointe le groupe central des mineurs victimes de ce qui s'appelait auparavant la direction centrale de la police judiciaire, qui est devenue depuis la direction nationale de la police judiciaire. Et j'ai donc intégré cette unité qui était spécialement dédiée à la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants en ligne et la pédocriminalité itinérante qu'auparavant on appelait le tourisme sexuel. Donc 22 ans de carrière jusqu'à présent, j'aime plutôt dire parcours professionnel que carrière, au service de la lutte contre l'exploitation des enfants et notamment l'exploitation sexuelle et la traque et l'identification, l'interpellation de pédocriminels.
Alors je pense que les auditeurs sont tout de suite imprégnés de la matière que tu traites. Et avant de rentrer dans les arcanes de ta spécialité, est-ce que c'est possible de nous raconter ton parcours et tes motivations premières pour entrer dans la police ?
Alors mes motivations premières ne sont pas très glorieuses parce qu'en fait j'ai intégré la police après avoir échoué au concours de la magistrature. Donc en fait depuis toute petite je voulais devenir pédiatre. Et le jour de l'inscription à la fac de médecine, j'ai rencontré un étudiant de droit qui m'a fait de la retape pour la fac de droit. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, je me suis inscrite en droit. Et puis, j'ai commencé mes études de droit. Je trouvais ça super, mais je ne savais pas si je voulais faire du droit public, du droit privé. Et j'ai eu la possibilité de partir dans une licence de droit où on pouvait faire les deux. Et là, j'ai fait beaucoup de droit pénal, de procédure pénale dans le cadre de cette licence. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça qui me plaît. C'est le volet pénal du droit. Et donc, je me suis spécialisée dans mes études supérieures en sciences criminelles, sciences pénales, criminologie, etc. Et puis, je suis partie à l'étranger pour finir mes études aux États-Unis. Quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, là, maintenant, il va falloir trouver un métier. Hein. C'est pas parce qu'on a un diplôme en droit qu'on peut faire, beaucoup, mais il faut passer le plus souvent par des examens ou des concours. Et là, je me suis dit, bon, pourquoi pas la magistrature ? J'étais embauchée comme assistante de justice auprès du procureur général de mon lieu de résidence. Donc j'ai commencé à régler des dossiers pour les renvoyer en cour d'assises. Et c'était majoritairement des dossiers de violences sexuelles sur des enfants. Donc ça a été mon premier pas dans la thématique, ma première approche de ces phénomènes pédocriminels. Et puis j'ai passé le concours de la magistrature, que je n'ai pas eu. Et la deuxième année de concours, je me suis dit, bon, il faut quand même que tu te réserves une petite porte de sortie au cas où si tu échoues encore. Et je me suis dit, pourquoi pas le premier palier du traitement judiciaire des affaires et la police. Le côté gendarmerie était trop militaire pour moi. Ça ne cadrait absolument pas avec mon caractère. Donc, j'ai décidé de passer des concours de police. Alors, vu mon nombre d'années d'études, je pouvais passer commissaire ou officier. Et voilà. Et l'école a été un vrai choc pour moi. Porter l'uniforme, marcher au pas. Je me suis vraiment posé des questions. Est-ce que je veux intégrer cette profession ? Et puis, au bout de quelques semaines, On a commencé les cours de procédure pénale, les cours d'articulation de procédure, de rédaction de PV. On s'est mis vraiment dans la thématique qui m'intéressait le plus. Et là, j'ai retrouvé ma motivation. Et j'ai fait en sorte de sortir assez bien classée pour pouvoir accrocher un poste en police judiciaire. Et en plus, la brigade des mineurs. Alors, pourquoi la brigade des mineurs? Déjà, je savais ce que je ne voulais pas faire en police judiciaire. Donc, le stup ne m'intéressait pas, le financier ne m'intéressait pas. J'aurais pris un si je n'avais pas eu le choix, parce que ce que je voulais, c'était vraiment le judiciaire. Mais moi, je voulais vraiment travailler dans les violences faites aux personnes, quelles que soient les violences. Et puis peut-être qu'il y a eu une petite résonance de mes anciennes velléités de devenir pédiatre. Je me suis dit, ah ouais, les mineurs, ça peut être pas mal, ça. Et voilà, quand j'ai vu qu'il y avait deux postes en sortie d'école, ben, j'en ai accroché un et j'étais super contente.
On a bien compris tes victimes sont des enfants. Qu'est-ce que cela comprend en termes d'enfants, le définir?
Alors ben, déjà, légalement, un enfant, c'est une personne de moins de 18 ans. Donc, c'est un mineur. Donc, j'ai traité des dossiers très divers en termes d'âge de mes victimes. J'ai traité des dossiers de bébés secoués. Donc, c'est des nourrissons. J'ai traité des infanticides jusqu'à des âges avancés. J'ai eu un dossier, le dernier dossier était un mineur de 16 ans. J'ai traité, bien évidemment, des violences sexuelles sur des enfants de 0 à 18 ans. Actuellement, à l'Office mineur et anciennement au groupe central des mineurs victimes, puisqu'il a disparu avec la création de l'Office mineur en septembre dernier, la moyenne d'âge des victimes dans nos dossiers, c'est 4 ans. Voilà, pour des faits commis sexuels graves, commis sur des enfants. Donc, nos victimes sont très jeune. Il m'arrive de moins en moins actuellement d'entendre des adolescents. Ça, je le faisais beaucoup à la brigade de protection des mineurs, que ce soit parce que c'est des enfants en danger, des enfants, des mineurs fugueurs, des enfants victimes de violences sexuelles entre enfants, que ce soit de la même fratrie ou pas. C'est vraiment extrêmement divers. De toute façon, les enfants, les mineurs victimes de violences le sont à tout âge. Moi, j'ai la particularité dans mon poste actuel de traiter de pédocriminalité en ligne et les pédocriminels qui diffusent des contenus qu'ils ont captés suite aux faits qu'ils ont perpétrés sur des enfants le font de plus en plus sur des enfants en bas âge, d'une part parce que c'est ce qui est recherché par les membres de la communauté pédocriminelle et parce qu'en fait, c'est tellement plus facile d'abuser d'un enfant qui est non verbalisant. Donc, très souvent, des enfants de moins de 3 ans et qui, de ce fait, aura bien moins de possibilités d'envoyer des signaux de mal-être et de situation infractionnelle. J'ai entendu aussi, j'ai été en contact avec des enfants en situation de handicap. Il faut savoir que les enfants en situation de handicap sont 5 fois plus victimes de violences sexuelles que les enfants qui n'ont pas ce type de handicap. On est aussi confronté à pouvoir recueillir la parole d'enfants qui sont moins à même de la délivrer en pleine conscience et en étant dans la plénitude de leurs moyens. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Quand je suis arrivée à la brigade des mineurs, jeune officier, j'avais pas conscience de tout ça. J'avais pas conscience que j'allais être confrontée à ce type de situation. J'avais pas conscience que j'allais être confrontée à des abus sexuels entre frères et sœurs. J'avais pas conscience que j'allais être confrontée à des parents abuseurs, mais aussi des mamans. C'est pas seulement des pères, que des personnes à qui on confie son enfant pour des activités extrascolaires ou scolaires étaient susceptibles de passer à l'acte, soit sur son jeune sportif, soit sur son élève, soit sur son enfant de cœur, soit sur... voyez, c'est un prisme de vision de la société qui est totalement déformé, en fait. Et à la fois, c'est un lieu où les victimes, donc quel que soit leur âge, de 0 à 18 ans, nous donnent à chaque fois beaucoup d'espoir parce qu'on peut entendre un enfant qui nous révèle des choses dramatiques, criminelles, Donc c'est un espace de temps à part, ce recueil de la parole, où on est vraiment, on forme un binôme avec l'enfant et on reçoit tout ce qu'il a à nous dire et on interprète le moins possible tout ce qu'il a à nous dire justement pour mener l'enquête correctement. Et quand on passe la porte après l'audition, on retrouve un enfant normal. On retrouve un enfant qui est super content de nous raconter ce qu'il a fait à l'école, le dernier exploit, le sportif qu'il a pu effectuer lors de son entraînement. Il nous montre les dessins qu'il a fait pendant son temps d'attente dans la salle d'attente pour donner à un tel ou un tel. En fait, on retrouve un enfant et ça donne de l'espoir sur la reconstruction de l'enfant, l'avenir qu'il pourra avoir, en se disant à la fois ça reste aussi un enfant et on va faire en sorte que le reste de son enfance se passe bien. Donc, tout ça, c'est tous des aspects de profil de victime auxquels on est confronté et qui sont difficiles par certains côtés et tellement enrichissants par d'autres, mais très, impactants psychologiquement, mais ça reste le creuset de notre motivation pour continuer ce métier et dans cette thématique de travail.
Les savoirs et les qualifications propres à l'OFMINE sont un enjeu quand même assez important. Est-ce que ça ouvre des portes vers une coopération internationale pour la formation ou pour la traque justement de ces pédocriminels ?
Alors, tout l'intérêt d'être dans un service central, et notamment un office en police judiciaire, c'est qu'on est le point d'entrée à l'international. Donc, pour tout ce qui concerne la thématique de l'exploitation sexuelle des enfants et des violences graves faites aux mineurs, l'office mineur va recevoir l'ensemble des renseignements par divers canaux. Tous ces renseignements-là, on va les recevoir, on va les trier, on va essayer de les rassembler, puisque parfois, on a divers canaux qui nous signalent la même personne ou la même victime. Et puis, à l'OFMINE, on va garder les profils à haut risque, c'est-à-dire les individus qui sont producteurs de contenu, ça veut dire abuseurs. On va garder les individus qui ont des professions ou des activités extra-professionnelles en contact avec des enfants, donc avec un risque de passage à l'acte accru. On va garder des individus pour des faits qui sont pas forcément criminels, mais qui ont exercé leurs appétences en France et à l'étranger. Donc, à partir du moment où il y a un volet international, c'est l'OFMINE qui va prendre. On va garder aussi des individus qui ont fait un nombre de victimes telles, parfois plusieurs centaines, qu'on ne peut pas laisser ça à un service local, à une brigade des mineurs qui est déjà sous l'eau en termes d'activité. Ils vont pas avoir la ressource en termes d'effectifs, de matériel, de possibilités de déplacement partout en France pour aller entendre les victimes, etc., etc. Donc, c'est vraiment le rôle d'un office central de garder ça. Et puis, on va aussi coordonner des actions ciblées sur notre thématique de travail, que ce soit au niveau du territoire national et des Outre-mer. Et parce qu'il ne faut surtout pas oublier les Outre-mer, qui sont très impactés par les violences sexuelles sur les enfants. Et on va aussi être en collaboration d'autres pays dans des opérations qui peuvent être pluriterritoriales. Et donc on va, par exemple, avoir des interpellations qui vont se passer en France au même titre qu'au même moment dans d'autres pays, parce qu'on est, on s'est coordonnés. Voilà, en fait, il faut piocher les compétences et les savoirs partout. Et là, clairement, c'est ce qu'on fait au sein de l'OFMINE.
On aura compris que, vraiment, une enquête commence pour l'OFMINE par du renseignement et de la recherche avec une pluralité de services à l'international qui permet après de retracer vraiment le parcours criminel des auteurs pour protéger des enfants qui deviendront des adultes et qui garderont sans doute des blessures. Et pour l'enquêteur, pour le policier que tu es, qui est-on et qui devient-on durant une enquête ? On évolue, j'imagine, dans sa réflexion personnelle et professionnelle. Est-ce que c'est palpable ou ça se ressent après ?
Alors, il y a plusieurs situations. On peut être, d'une part, très impacté psychologiquement dès la réception d'un renseignement. ou quand on est à l'initiative de ce renseignement, puisque à l'office, on est aussi formé à aller chercher le renseignement sur le ClearNet ou le DarkNet. Donc, on utilise des techniques d'enquête et des outils qui nous permettent de le faire. Donc, on va, par exemple, s'infiltrer sur les réseaux en tant que pédocriminel ou en tant qu'enfant, de manière à traquer en direct les individus qui diffusent du contenu ou qui produisent du contenu. Donc ça, c'est très impactant, puisque se glisser dans la peau d'un pédocriminel, c'est pas anodin. Vivre des jours, voire des semaines en direct, à échanger avec des pédocriminels qui vous racontent tout ce qu'ils veulent faire aux enfants et comment le faire, etc. Et devoir acquiescer, devoir surenchérir et devoir... c'est très, très compliqué. Après, quand on reçoit un renseignement qui nous est envoyé par ailleurs, quel que soit le canal, et que quand on ouvre le contenu et qu'on a la surprise de voir ce que c'est, quel type d'enfant, quel âge, les faits perpétrés, bah, évidemment, on se prend ça de plein fouet, parce qu'on a beau s'armer, on a beau se dire que oui, ça va être un contenu un peu compliqué à regarder, bah, on est toujours saisi et encore heureux. Je dirais encore heureux, parce que si on ne l'était plus, ben faudrait changer de thématique de travail. Il y a une différence à la banalisation et la distanciation. Chez moi, on ne peut pas banaliser, c'est impossible. D'une part, parce qu'il ne le faut pas et parce que les gens ne le font pas, les enquêteurs ne le font pas. Et d'autre part, parce que c'est impossible, parce qu'à chaque dossier, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues avant. On voit des choses encore plus atroces. On voit des choses qu'on n'aurait jamais cru imaginables de la part d'un être humain, de le faire à un autre être humain, quel que soit l'âge, et d'autant plus quand, par exemple, c'est un nourrisson. Par contre, ce qu'il faut impérativement, et ça c'est pour notre propre protection, il faut qu'on ait une mise à distance. Et parfois c'est possible, et parfois ça ne l'est pas. Parce que on vient d'ouvrir un contenu où l'enfant ressemble au vôtre, où l'enfant ressemble à celui que vous côtoyez régulièrement parce que c'est le copain de votre enfant. Parce que, en fait, il y a beaucoup de choses, parce que la musique en arrière-fond, vous la connaissez, c'était la musique qui permettait d'endormir votre bébé à l'époque. Enfin, voilà, il y a toujours quelque chose qui, à un moment donné, vous ramène à la réalité, votre réalité personnelle, et qui peut être très compliqué à gérer. Dans ces cas-là, on le prend en considération. Donc soit on ne se sent pas capable de traiter ce dossier-là, et donc c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Et en tant que chef d'unité, quand j'étais à la tête du GCMV, j'étais assez attentive à ça. C'est-à-dire que quand des collègues avaient eu certains dossiers très compliqués, j'ai évité de leur donner. Quand ils me disaient, là en ce moment, les bébés, je peux pas, donc j'ai évité de leur donner. Quand je les sentais un peu fragiles, à un moment donné, que je savais que personnellement il y avait des complications à la maison, etc., j'évitais de donner des dossiers trop impactants. Mais parfois, en fait, on est obligé quand même, vu la masse de ce qu'on reçoit. Et donc, dans ces cas-là, quand on distribue les dossiers, ben, on prévient. Voilà, on dit, voilà, ça, ce sera un dossier avec tel type de victime, tel type de contenu. C'est des contenus qui vont être compliqués à regarder, etc. On prévient, parce que comme ça, ça permet à l'enquêteur de, dès le départ, se mettre dans une configuration psychologique de mise à distance qui n'est pas celle qu'on a quand on reçoit le renseignement et puis qu'on ouvre comme ça pour voir ce qui est dedans et si c'est effectivement une infraction caractérisée, si nous, on peut ouvrir une enquête, etc. etc. Donc voilà, pour le coup, là, en tant que chef d'unité, on a un rôle à part et une mise à distance qui n'est pas toujours possible. Voilà. Et donc, c'est d'autant plus impactant. Mais après, on fait avec. On a un suivi psy qui a été rendu obligatoire il y a de ça quelques années. Donc, on a 3 rendez-vous dans l'année. On peut bien évidemment en avoir plus. Pour certains dossiers, j'ai pu en demander spécifiquement. Et en général, les collègues, de toute façon, c'est passé dans la routine du travail. Ils savent que tous les trimestres, s'ils n'en ont pas eu besoin avant, ils ont leur rendez-vous chez le psy à prendre. Et en fait, c'est tellement devenu une routine qu'il y a beaucoup d'entre eux qui, en fait, ont un suivi au-delà des trois rendez-vous. Et c'est très bien. Et dont je fais partie d'ailleurs, parce que je pense que quand on voit ce qu'on voit, quand on rencontre les personnes qui nous disent certaines choses, que ce soit les auteurs ou les victimes, et que je demande à l'issue comment ça va et qu'on me répond très bien, je le crois pas. Voilà. Je crois un enfant. Voilà. Je ne crois pas forcément un auteur. Mais en tout cas, un effectif qui me dit qu'il va très bien après un dossier chez nous, je ne crois pas.
Tu as prononcé l'acronyme GCMV. Peux-tu nous en dire plus ?
Oui, alors c'est l'acronyme de Groupe Central des Mineurs Victimes. En fait, c'est l'unité que j'ai intégrée en 2015, qui est au sein de la Direction Centrale de la Police Judiciaire, et qui a disparu en septembre 2023 à la création de l'OFMIN, en fait. Ce groupe a été intégré et maintenant est devenue une section à part entière de l'OFMIN qui est dédiée à la lutte contre la pédocriminalité en ligne.
Tout à l'heure, pour les plus jeunes victimes et notamment les réseaux sociaux, tu disais qu'il y a un manque de contrôle, que tout est public. Est-ce qu'il y a un autre moyen de pouvoir prévenir de ça ? Peut-être l'écriture d'un livre ?
Alors, ça tombe bien, ça tombe même très bien, parce que actuellement en librairie, il y a un livre que j'ai écrit sur l'explosion de la pédocriminalité en ligne. Et je me suis poussée à écrire ça en y mettant beaucoup de personnel, parce que, d'une part, c'était un moment où j'en avais besoin. J'avais besoin de coucher sur du papier tout ce que j'avais vécu dans mon parcours et tout ce que ça avait pu avoir d'impact au niveau personnel. Mais aussi parce que je me suis aperçue au fur et à mesure de mes actions de formation, que ce soit en France, auprès de mes collègues, de magistrats ou de personnes qui traitent de la protection de l'enfance, une méconnaissance, mais dramatique, de ce qui se passe en ligne pour les enfants, des dangers auxquels ils font face quotidiennement, et également de la méconnaissance des parents, des enseignants, de tout citoyen, de ce à quoi font face les enfants à partir du moment où ils sont connectés. Et donc, dans ce livre, j'expose les phénomènes pédocriminels, ce à quoi font face les enfants, et surtout, je donne des outils pour les parents, mais aussi tout autre citoyen, de pouvoir faire de la communication avec leur enfant sur ce qui se passe sur Internet, de pouvoir mettre en sécurité leurs supports numériques et leurs objets connectés, de pouvoir parler tout à fait librement. Il faut savoir aussi que pour les trois quarts des enfants, à l'heure actuelle, leur vie, c'est pas être à la maison, c'est pas être à l'école, etc. C'est être en ligne. Et que pour leur vie, leur vraie vie, c'est tout ce qui se passe en ligne. Et en fait, ils se mettent totalement à nu, au propre comme au figuré, en ligne. Et évidemment, de l'autre côté de l'écran, de l'autre côté de l'application mobile, en réponse au réseau social et au chat, il y a qui ? C'est majoritairement des personnes qui ne sont pas bien intentionnées. Et donc, voilà, moi, je voulais vraiment délivrer ce cri d'alerte pour que tout le monde sache comment venir en aide en termes de prévention, mais aussi de réaction à ce que peuvent subir les enfants en ligne. Et souvent, l'enfant a l'impression que comme c'est en ligne, il risque rien. Et que cet écran-là qu'il a en face de lui, quelle que soit la taille de cet écran, ça le protège. Ce qui est totalement faux. Et derrière l'écran, il y a surtout le pédocriminel. Et ça peut être... Alors, c'est majoritairement des hommes, mais ça peut être monsieur tout le monde. Il n'y a pas de profil type. Et c'est très souvent même des personnes insoupçonnables parce qu'ils font en sorte d'endormir la confiance des parents, des enfants. et pour avoir un accès facilité aux enfants. Et voilà, et c'est ça que je veux démontrer dans ce livre, c'est qu'il faut être... alors, c'est pas, voilà, c'est pas alarmiste, c'est pas non plus... il faut être extrêmement méfiant auprès de tout le monde, il faut plus rien faire. Moi, j'explique bien qu'avec mes enfants, ben, voilà, ils ont fait plein de choses, mes enfants. Ils sont allés en colonie de vacances, ils ont fait des soirées pyjama chez les copains, ils ont pu aussi voilà, partir en voyage scolaire, ils ont fait du scoutisme, enfin bon, ils ont fait plein de trucs. Après, il faut savoir dire à l'enfant quels sont les dangers. Donc évidemment, on adapte son discours à l'âge de l'enfant, hein. Mais en fait, ce dont les enfants ont peur, c'est pas d'entendre parler de sexualité, d'entendre parler de choses où nous, en tant qu'adultes, on se met des tabous, on peut pas leur en parler, etc. Non, il faut juste adapter son discours, il faut juste dire à l'enfant ce qu'il risque, et c'est bien, parce que l'enfant a peur de l'inconnu, en fait. C'est de ça dont il a peur, de l'inconnu, mais pas d'un inconnu, mais de l'inconnu en règle générale. Et en fait, une fois qu'on lui aura expliqué, il va absolument tout intégrer, tout comprendre, et il aura les bonnes réactions. Il aura les bonnes réactions de signalement, d'alerte. Il saura jauger lui-même si une situation est malaisante pour lui, et donc il la signalera. Même s'il ne s'est rien passé, c'est bien qu'un enfant sache identifier quand, pour lui, la situation, voilà, ça, il est dans une situation où il ne se sent pas très bien. Il ne sait pas définir vraiment pourquoi, mais voilà, à cet instant-là, avec cette personne-là, etc., il n'est pas bien. Bah, et qui sache le dire et à qui le dire. Et voilà, et dans ce livre, j'explique aussi que quand on ne se sent pas capable de recevoir ce type de parole ou de faire ce type de communication, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Et il y a des associations, il y a des psychologues, il y a peut-être un voisin, une voisine, une amie, un professeur qui peut, un instituteur qui peut faire une action de sensibilisation dans sa classe parce que c'est une thématique qui l'intéresse et qui le prend au trip et il veut faire de la sensibilisation en ce sens. Voilà, c'est le rôle de tout le monde maintenant, quand on sait qu'on a plus de 10% de la population qui a subi des violences sexuelles dans son enfance. Ça fait quand même 5,5 millions de Français. On ne peut plus rester les bras croisés. On ne peut plus se dire oui, ben, ça arrivera bien, mais pas à mon enfant. Si, en fait, ça arrive à son enfant. Et c'est bien de pouvoir lui donner les clés qui lui permettent que ça n'arrive pas. Et donc, ce livre, aura cette vocation.
Rappelons-le, Derrière l'écran, aux éditions Stock. Est-ce que dans ce livre aussi, il y a une part de, peut-être, Véronique la maman ?
Ah ben, il y a une grosse part de Véronique la maman. En fait, on m'a demandé de mettre une grosse part de Véronique la maman, parce que je pense que le sujet est très, très compliqué, et que pour que ce soit lu par tout le monde, il fallait que les gens réussissent à s'identifier à quelqu'un. Et que donc, je mets le lecteur dans ma tête, d'enquêteur, dans ma tête de policier, dans ma tête de femme, dans ma tête... Ça n'a pas été toujours facile, mais ça a été aussi un bon moyen pour moi de me dire « Ah ouais, tu t'en es quand même pris plein la tête pendant 20 ans. C'est pas mal, en fait, de l'écrire. Ça fait du bien. » Mais oui, je veux juste faire comprendre aux gens qu'en fait, c'est un fait de société, c'est systémique. Et donc, il faut s'emparer du sujet. J'ai bien conscience que c'est inaudible parfois, incompréhensible, qu'on a comme première réaction un rejet complet, mais même au niveau de ma maison d'édition, hein, ça a été comme ça. Mais qu'en fait... On peut pas passer à côté maintenant, c'est plus possible.
D'habitude, la dernière question de ce podcast, c'est être flic, mais pour toi Véronique, en plus d'être flic, j'ai envie de te demander qu'est-ce que c'est d'être enquêtrice.
Alors, c'est une vaste question. Être enquêtrice, pour moi, c'est pouvoir, grâce à des techniques d'enquête, grâce à mes traits de caractère, grâce à mes connaissances acquises au fil du temps, je peux à la fois maintenant détecter plus facilement des victimes, interpeller et mettre hors d'état de nuire des individus qui violentent des enfants. c'est faire savoir aussi, dispenser des actions de formation pour que d'autres enquêteurs ou enquêtrices puissent eux-mêmes avoir ces connaissances et pouvoir œuvrer de la même manière. Je pense qu'enquêtrice, maintenant, ce n'est pas juste recevoir quelqu'un dans son bureau et faire un procès-verbal qui sera transmis après au procureur de la République ou au juge d'instruction. Non, ça va au-delà. Je pense, actuellement, avec les nouvelles technologies, on peut être enquêtrice 2.0. Et voilà, et maintenant, on ne peut pas passer à côté de tout ce qui se passe en ligne, de tous les objets connectés, de la masse de supports numériques à analyser, etc., etc. Et on sait que, de toute façon, maintenant, dans toutes les thématiques criminelles, il y a du cyber. Et donc on est enquêteur, 2.0.
Et flic ?
Bah, flic, c'est... Je pense que c'est quelque chose qui me définit tellement depuis 22 ans maintenant que c'est même plus un métier. C'est une part de moi. Voilà. Et ça m'a façonné. Maintenant, j'ai des réactions que je n'aurais jamais eues en tant que citoyen lambda. Donc, j'ai développé une hyper-vigilance. Dès que je suis quelque part, je suis attirée visuellement par certains comportements d'adultes sur des enfants, etc. Enfin, voilà, je suis... C'est en moi. C'est rentré dans mon tronc et j'ai développé des branches. Voilà, avec toutes ces caractéristiques que peuvent développer les flics et qui font que même si un jour ils sont plus flics, ils restent flics à jamais.
Merci Véronique. Vous quittez les ondes d'être flic. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous en attendant les prochains épisodes.